promoteur à nous présenter son projet et par la suite à répondre à vos questions. Donc, je souhaite une bonne soirée.
Merci, M. le Président, membre du COMEX, Mme Cyr, maire de Chibougamau, et M. Gamache, maire de Chappais. Ça fait plaisir d'être ici ce soir et l'assistance en général. Nous allons commencer notre présentation, essayer de la faire la plus simple possible, la plus courte. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions, le cas échéant par la suite. On va commencer par une petite présentation vidéo d'environ 4 minutes et je vais suivre avec une mise à jour.
Nemaska Lithium, le prochain producteur d'hydroxyde de lithium pour le marché en pleine croissance des batteries lithium-ion. Laissez-nous vous présenter le projet Wabushi, situé à environ 300 km au nord de Chibougamau, dans la province de Québec, au Canada. Dans un rayon d'environ 25 km du projet, on retrouve toutes les infrastructures requises pour l'opération d'une mine. Environ 25 km à l'ouest se trouve le village cri de Nemaska, communauté d'environ 1000 habitants. L'aéroport Nemisco, desservi par Air Québec, 5 jours par semaine à partir de Montréal. Ainsi que le relais routier Nemisco, où les travailleurs provenant de l'extérieur de la région seront logés. Finalement, 2 sous-stations électriques, le poste Nemisco et le poste Albanel, qui alimentera en hydroélectricité la mine. Le transport des employés se fera par autobus à partir du village de Nemaska avec arrêt au relais routier Nemisco. Le projet se trouve immédiatement à l'est de la rivière Nemisco, au nord du lac des Montagnes. Il a été conçu en tenant compte de l'utilisation du territoire par la population locale pour en réduire son empreinte au minimum. La mine sera exploitée par fosse à ciel ouvert au cours des 20 premières années pour ensuite se poursuivre par opération souterraine durant 7 ans. Ce projet prévoit la co-disposition des résidus du concentrateur avec les stériles provenant de la mine, minimisant ainsi son empreinte environnementale. Le mort-terrain enlevé lors du décapage de la mine sera entreposé jusqu'à sa réutilisation pour progressivement revégéter les halles de stériles et résidus en cours d'opération et l'ensemble du site à la fermeture. Les eaux de pluie et de fonte des neiges, ainsi que celles provenant du pompage de la mine, seront collectées dans des bassins de sédimentation avant d'être retournées dans l'environnement. Finalement, les explosifs seront entreposés dans un endroit sécuritaire. Regardons ensemble l'évolution du projet. Après 9 ans d'opération, la zone minéralisée sera entièrement ouverte et la fosse commencera à prendre forme, tout comme la première halde de stériles et résidus. À l'année 26, la fosse atteindra environ 180 mètres de profondeur, 1,3 km de longueur et 300 mètres de largeur. Également, la seconde halde de stériles et résidus sera complétée. Le minerai sera acheminé par camion de 50 tonnes de la mine au concentrateur, où il sera déchargé directement dans le circuit de concassage. Une pile de minerai sera également constituée aux abords de ce circuit pour en assurer une alimentation constante. Par la suite, le minerai sera concentré par séparation en milieu dense et par flottation, et ensuite acheminé par camion de transport vers la région de Chibougamau-Chappais, où il sera transbordé dans des wagons de chemin de fer. L'opération comptera également des bureaux administratifs et un garage pour l'entretien du matériel roulant nécessaire à l'exploitation de la mine. En tout, l'opération requerra environ 125 personnes. Le projet Wabushi prévoit le minage d'environ 1,1 million de tonnes de minerais par an, lequel sera concentré sur place pour produire environ 213 000 tonnes de concentré de spodumène à une teneur de 6% d'oxyde de lithium. À la fin des opérations, les bâtiments miniers seront enlevés, la fosse se remplira graduellement d'eau et l'ensemble du site sera revégété. Nemaska Lithium entend devenir un important producteur d'hydroxyde et de carbonate de lithium pour le marché en pleine croissance des batteries au lithium. Tout cela commence ici, sur le territoire Iyu-Ichté, Bay James, dans le nord du Québec. Ensemble, nous changerons le monde, une batterie à la fois.
C'est peut-être un petit peu prétentieux, mais il faut se faire des rêves comme ça pour y arriver. Okay. Alors donc, ça me fait plaisir, on arrive au bout d'un très long processus d'élaboration d'un projet minier qui se conclut par les audiences qu'on est en train de vivre. Et on voit sur cette diapositive l'évolution du projet qui a tenu compte et qui a été évolué suite aux différentes très nombreuses rencontres et consultations avec les différentes parties prenantes du dossier, dont principalement la population locale de la région de Nemaska. Vous remarquez sur la diapositive, en vert, c'est le nouveau projet où on voit une beaucoup plus petite empreinte environnementale que ce qui était initialement prévu. Les principaux problèmes qui avaient été soulevés avec le projet initialement, c'était la proximité de la halde de résidus avec le lac des montagnes, ainsi que la présence de deux bassins de sédimentation en bordure du lac.
Ce ne sera pas long.
Alors, on voit ici la pile de stériles et minéraux, résidus et stériles, et les deux bassins de sédimentation qui étaient problématiques pour les populations locales en raison de la présence trop près du lac. Ça nous a forcé à nous poser des questions additionnelles et à modifier l'empreinte, de sorte que maintenant, tout va se situer dans un beaucoup plus petit rayon. La mine a été évoluée initialement d'une opération de 20 ans uniquement à ciel ouvert, en une opération de 26 ans avec 20 ans à ciel ouvert et la balance en exploitation souterraine par une rampe à partir du fond de la fosse. Alors donc, on a tenu compte des différents commentaires des gens. Ça nous a permis de réajuster le tir. Une aussi des préoccupations exprimées souvent, c'est le transport du concentré sur la route du Nord pour revenir dans la région de Chibougamau-Chapais. Évidemment, c'est la destination de la plus près. L'autre destination aurait été Matagami, alors donc à peu près 85 km de plus de transport. Mais initialement, ce qu'on regardait, c'était des camions conventionnels de 38 tonnes. Ça donnait 16 voyages par jour, donc 32 camions à un point donné par jour. Donc, à toutes les 45 minutes, à un point donné, un de nos camions de transport. On a essayé de trouver des façons de diminuer cet impact-là. Alors, un des contracteurs avec qui nous travaillons pour essayer de trouver des alternatives, nous a fait une proposition fort intéressante d'utilisation de camions bétrains de 100 tonnes de capacité, ce qui est permis en raison de la capacité de la route du Nord et l'emploi de chemins forestiers pour se rendre jusqu'à un site de transbordement. On est donc passé de 16 voyages par jour à 6 voyages par jour, ce qui est, au niveau sécuritaire, au niveau des risques, beaucoup, beaucoup moindre. Un des aspects intéressants qu'on trouve cependant avec le transport, parce que plusieurs personnes nous ont émis des commentaires sur la sécurité, nous on pense que à 6 camions par jour, même à 16, là, mais à 6 avec ce qu'on vous présente, on ajoute un aspect de sécurité très important pour la route du Nord. Tous ceux d'entre vous qui l'utilisez fréquemment savent qu'entre autres l'hiver, on se sent pas mal seul quand on voyage ce trou-là le soir et s'il nous arrive quelque chose, on se demande combien de temps ça va prendre avant que quelqu'un passe. Au moins, avec le projet qu'on a sur la table, ça va prendre à peu près 2 heures maximum avec au moins un autre camion passe. Alors, ces camions-là vont tous être équipés de trousses de premiers soins, de téléphones satellites et de différents moyens de communication qui vont permettre des interventions plus rapides. Fait qu'on trouvait que c'était quelque chose d'intéressant à souligner. Maintenant, comme je le disais, on arrive au bout d'un très long processus. Quel est notre échéancier? C'est ce qui vous intéresse, j'en suis certain. C'est quoi la suite de cette histoire-là? On veut tous arriver à une mise en opération. Alors donc, nous attendrons maintenant l'obtention du certificat d'autorisation ainsi que l'autorisation fédérale. Dans les deux cas, nous prévoyons, si tout continue à bien se passer, obtenir ces certificats et autorisations au courant de l'été 2015. Ce n'est qu'une fois ces certificats d'autorisation-là obtenus qu'on pourra commencer l'ingénierie de détail pour pouvoir... On vise un début de construction à l'été de 2016 pour un début d'exploitation à la fin de 2017. On parle à peu près de 18 mois de la construction. Et on ne parle pas non plus d'une très grosse opération. Juste pour vous donner une idée là, relative de l'empreinte de ce projet-là, c'est à la maximum de camions de mine dans la plus grande année de production et de mort terrain, on parle de 8 camions de 50 tonnes. Alors donc, c'est une petite opération. C'est essentiellement, au début, une opération de carriérage avec un concentrateur. Alors, on parle pas là, des empreintes, là, vous donner une idée pour les gens d'ici, effectivement, la superficie totale du projet est beaucoup plus petite que celui-là du Stornoway. Alors, ça vous relativise la grosseur du projet. Un tiers, oui, c'est une bonne affaire. Parlant des emplois, en période de construction, on parle d'environ 375 employés. Au niveau de l'exploitation, la vidéo parlait de 125, on a refait le compte hier, on parle plutôt de 185 sur deux quarts de travail, mais jamais plus que 115 employés sur le site à un moment donné. 101 personnes requises pour les activités minières, 67 pour le concentrateur et 17 emplois administratifs. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir le type d'emploi, là. Forage, dynamitage, transport, machinerie lourde, mécanicien, opérateur de concentrateur, monteur, etc., etc. Une fois la mine fermée, pour la fermeture de la mine, on parle de 15 employés. On a évidemment, comme dans tout projet minier, eu à faire une étude des impacts socio-économiques, environnementaux. Les principaux impacts qui ont été identifiés sont évidemment la modification de la qualité des eaux du lac des Montagnes, perturbation et perte indirecte d'habitat du poisson, pression de pêche accrue par la venue de tant de nouveaux travailleurs, modification de la qualité de l'air à proximité du site minier, principalement de la poussière, augmentation du niveau sonore, principalement provenant de la halle de stérile, ainsi que la modification du paysage. Comme je vous l'ai dit, on a quand même modifié beaucoup la halle de stérile, mais ça fait quand même une modification assez importante au paysage. Ça fait un monticule. On le voit sur la maquette derrière, une montagne d'à peu près 60 mètres de haut. Alors, c'est sûr que visuellement, ça a un impact. On a tenu compte, dans nos évaluations et la modification du projet, des commentaires qu'on avait reçus, de façon à le rendre plus acceptable. On a évidemment aussi, pour la qualité de l'eau, mis en place un plan de gestion des eaux. Le principe est fort simple. De ce plan-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, en bleu ici, toutes les lignes bleues sont des fossés pour récupérer. Il n'y a pas une goutte d'eau qui va toucher nos infrastructures, qui ne sera pas collectée dans un bassin de sédimentation avant d'être rejetée et clarifiée, avant d'être rejetée au lac. Ce qui est important de mentionner, vous avez tous les systèmes de pompage, il y a un grand bassin de sédimentation ici, qui reçoit autant l'eau de la mine que l'eau qui provient des différentes haldes autour. Très important de mentionner que l'eau fraîche prise pour le procédé, parce qu'ici on fait, c'était peut-être pas clair dans la présentation, on fait de la co-disposition des stériles et des résidus de l'usine. Alors donc, on fait filtration par presse de nos résidus pour faire de la co-disposition. Fait qu'il n'y a pas de bassin de résidus miniers comme on est habitué de voir dans les mines conventionnelles. Donc, pas de digue, pas de problématique éventuelle de rupture de digue une fois les opérations minières fermées. Ce qui fait que, parce qu'on fait la filtration par presse, on récupère le maximum d'eau dans notre circuit de concentrateur. Alors, la seule eau qui se retrouve dans le lac est de l'eau qui vient de la fonte de la neige et de la pluie, qui est collectée, qui laisse la sédimentation au niveau du bassin, pour ensuite être rejeté. Nous avons... je ne sais pas si ça dit ici. Non, OK. Non, juste mentionner ici, dans le lac des Montagnes, il va y avoir à peu près 6 km. 6 km de tuyaux pour venir que la décharge soit dans l'endroit du lac des Montagnes où il y a le plus de courant pour faire une meilleure dispersion. Lorsqu'on a fait notre baltimétrie et les simulations, initialement, on était à peu près 750 mètres ici, en ligne droite, mais il n'y a aucun courant. Ce n'est que de l'eau, je ne dirais pas stagnante parce que c'est un lac, là, mais avec à peu près pas de courant. Alors, on a changé, suite aux différentes modélisations faites, la localisation de la décharge des eaux de sédimentation. Vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé et qu'on a fait une annonce à la fin, au mois de novembre 2014, nous avons conclu une entente, l'entente Chinucci, qui en langage cri signifie montagne qui se continue dans le lac. Donc, l'entente Chinucci, qui est ce que tout le monde référait dans le passé comme étant IBA, Impact Benefit Agreement, en vertu de la convention, pas la convention de la politique minière cri, qui prend en charge les relations de travail à long terme, l'opportunité de formation, d'emploi et d'affaires pour les CRI, la coopération et l'implication des CRI dans le suivi environnemental à toutes les phases du projet, avant l'ouverture, durant et à la fermeture. Évidemment, ça met en place aussi relations respectueuses et constructives avec les utilisateurs du territoire. Et tout ça, chapeauté par un comité de mise en œuvre de l'entente Chinucci pour le projet Wabushi, qui va être à 50-50 avec des partenaires CRI, un représentant du Grand Conseil du gouvernement CRI, de la Nation CRI, deux représentants de la Nation CRI, de Nemaska, et trois représentants de Nemaska Lithium. Évidemment, comme dans tout bon projet dans la région de Chibougamau-Chapais, je suis convaincu que bientôt, nous aurons l'opportunité de signer une déclaration des partenaires. On a déjà parlé avec Mme la mairesse Cyr. Et on va continuer à évoluer dans la même voie. Bien important, le comité environnement aussi, qui est prévu dans l'entente Chinucci, qui est encore là avec une représentation égalitaire. Mais ces tâches sont très importantes. C'est en collaboration avec Nemaska Lithium, mais on a laissé beaucoup de place et d'importance aux représentants CRI sur ce comité. Donc, leur tâche est de déterminer les indicateurs environnementaux pour le suivi. La communication et les informations en temps opportun auprès des communautés CRI. L'élaboration du plan de restauration et de fermeture. L'élaboration et la mise en place du plan de gestion environnementale et sociale. Ainsi que l'élaboration, évidemment, du plan de mesures d'urgence. Je vous remercie de votre attention et, comme je vais me répéter, ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions.
Bon, merci, M. Bourassa, pour cette présentation. On en est donc, si vous avez